Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Chaque jour, de 13h à 14h, nous mettons en avant des Françaises et des Français qui ont des idées, qui osent. Et ensemble, on écoute le monde changer. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des parcours de vie autour d'histoires entrepreneuriales. La France bouge sur Europe 1. On en parle avec Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag. Bonjour à toutes et à tous. C'est la rentrée et le moment souvent de solliciter des cours de soutien scolaire pour nos enfants. Parmi les leaders en France, il y a Academia. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en cette rentrée normale, eh bien, ce marché du soutien scolaire a fortement évolué. Vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, ça tombe bien, son patron est notre invité jusqu'à 14h.
À la une, l'éducation et l'apprentissage. Les Français sont de moins en moins bons en orthographe. Alors, pour lutter contre ce fléau, il y a le projet Voltaire. Les progrès sont saisissants. On va tout découvrir d'ici quelques minutes.
Là, c'est l'un des plus vieux lycées français. Ça s'appelle le lycée Saint-Louis. Il est à Paris. Il date du 15e siècle. Et on va aller y pousser les portes grâce à Charlotte Barrican dans notre saga du jour vers 13h30.
Vos enfants sont rivés sur les écrans au lieu d'étudier les leçons. Eh bien, nous, on a trouvé une appli. C'est Nanaba. Elle verrouille toutes les autres applications qui sont présentes sur le téléphone. C'est le pitch du jour des trophées de l'avenir. Rendez-vous à 13h45 pour les découvrir.
Faudrait peut-être l'appliquer également pour les adultes. Et puis demain, un emploi. On a 600 postes aujourd'hui à pourvoir. Où ça ? Réponse en fin d'émission.
Allez, bienvenue dans la France bouge. C'est parti. Vous pouvez nous suivre sur Europe1.fr, Twitter ou encore Instagram. On a des très jolies photos sur notre compte, la France bouge. Et nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
On est vraiment chaque jour très heureux avec Elisabeth Assayag de vous accueillir dans la France bouge en direct de 13h à 14h du lundi au vendredi. Vous êtes chaque jour plus nombreux, on le voit dans toutes les interactions qu'on peut avoir, notamment sur les réseaux sociaux. Justement, n'hésitez pas à venir commenter, à nous dire ce que vous en pensez, puis peut-être même à nous donner des petites idées pour qu'on puisse chaque jour être à la pointe de l'actu. Aujourd'hui, on va parler soutien scolaire avec notre témoin jusqu'à 14h.
Bonjour Philippe Colléon.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Nous sommes ravis de vous retrouver. Vous êtes le président d'Academia. Academia, ce sont des cours de soutien scolaire. Vous existez depuis 25 ans, 600 salariés. Vous travaillez avec près de 15 000 enseignants. Alors Philippe Colléon, comment se passe cette rentrée ? Une rentrée qui, normalement, n'est plus en visio. Hein. Normalement, on a repris de manière traditionnelle après les différents confinements.
Alors, elle paraît normale, mais je crois que cette rentrée reste quand même anormale d'avoir des enfants qui continuent à venir à l'école avec des masques après deux années, je dirais, complètement perturbées. Je pense que justement, de faire comme si c'était rien passé serait une erreur. Je pense qu'il y a eu quand même deux années de traumatisme, à la fois pour les élèves, mais aussi pour les parents. Et que c'est justement, il va falloir du temps pour reconstruire cette normalité, pour récupérer parfois le retard pris et le manque effectivement de connaissances parfois accumulées depuis maintenant deux ans.
Ça veut donc dire que vous assistez à un changement des besoins ?
Oui, il y a un vrai changement de besoin au niveau des classes de la demande. Il y a beaucoup plus de demandes sur le collège, le primaire. Donc on voit, c'est pour effectivement récupérer du retard des acquis qui n'ont pas été acquis, si je puis dire. Mmh. Et puis nous, on a eu un deuxième effet qui est la réforme du baccalauréat. Depuis deux ans, et le nouveau bac montre que le contrôle continu, bien sûr, enlève de la pression sur ces élèves de terminale. Mmh. Et l'enjeu n'est plus tellement le baccalauréat, mais bien Parcoursup.
Donc, on va revenir, si vous le voulez bien, parce que c'est quand même saisissant ce que vous nous dites, Philippe Colléon. Vous nous dites qu'il y a plus de demandes du côté des écoliers de l'école primaire, du côté des collégiens. Ça signifie qu'il y a un effet confinement. Dans les faits, c'est quoi ? C'est qu'ils ont des retards ? C'est qu'ils ont moins confiance en eux, ils n'ont plus envie d'aller à l'école. Est-ce que ça a développé des nouveaux troubles, cette crise ?
Oui, il y a à la fois du retard parfois accumulé. Il faut voir que ces deux années, parfois c'était effectivement en distanciel, parfois les écoles étaient fermées, parfois c'était en demi-groupe. Enfin, c'était très très compliqué pour un élève de primaire, voire du début du collège. Donc, à la fois il y a ce besoin de récupérer un retard en termes de connaissances, mais aussi un travail psychologique sur ces enfants-là qui ont parfois un peu décroché. Il faut avouer que ces enfants-là, ont vécu des scolarités très perturbées et que lorsqu'un enfant fait sa rentrée cette année en 5e, on n'est pas sûr que les connaissances de 6e, voire de CM2, soient bien assimilées.
Mais pour qu'on ait une petite idée de cette évolution, par rapport à une rentrée normale où les parents viennent vous voir parce qu'on se rend compte que le petit dernier n'est pas super bon en maths et qu'il a besoin d'un petit soutien, qu'est-ce que représentent ces nouvelles demandes pour juste rattraper le retard et remettre l'enfant à niveau? Puisque là, on n'est même pas sur des enfants, de ce que j'entends, qui ont des difficultés particulières. Mmh. On est sur des enfants qui ne sont pas au niveau requis pour être, si je reprends votre exemple, de la cinquième.
Alors, il y a un grand travail, j'ai envie de dire, de redonner confiance, redonner du sens dans l'apprentissage. C'est vrai qu'on a été pendant 2 ans, parfois avec les parents, maîtresses ou maîtres, où il y a eu il n'y avait plus les copains. Donc, il y a toute cette communauté à recréer, il y a toute cette confiance à redonner aux enfants et aussi à soulager les parents. Je crois qu'il ne faut pas oublier dans cette aventure la difficulté qui a été d'être parent, de devoir bien souvent et assumer son travail et ce rôle d'enseignant. Donc c'est tout ça qu'il va falloir rétablir.
Mais c'est donc la majeure partie des demandes dans cette rentrée.
Ah oui, oui. C'est très très net. Où ce n'est pas juste de faire des mathématiques, ce n'est pas juste de revoir du français, c'est bien de remettre l'enfant dans une scolarité normale.
Le remettre dans une scolarité normale, et vous venez de le dire, il porte des masques, et là on vient tout juste de l'apprendre, le porte-parole du gouvernement qui annonce la fin du masque à l'école primaire à partir du 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence du Covid est inférieur à 50. Donc on va revenir petit à petit vers cette forme de normalité qu'ont connu nos enfants, nos élèves depuis 2 ans. Donc ça veut dire, ça signifie qu'il faut aussi les accompagner psychologiquement, c'est-à-dire au-delà du niveau scolaire, les accompagner dans la prise de confiance en eux, leur dire que finalement, de reprendre une scolarité avec un rythme, avec des horaires, avec un cadre.
Oui, c'est ça. Il faut redonner un cadre à l'enfant, lui redonner du sens dans ses apprentissages, lui redonner effectivement confiance en lui, sur ses capacités, même si les bulletins de notes n'ont pas voulu dire grand-chose ces 2 dernières années, il se rend compte qu'il a des lacunes. Il se rend compte qu'il y a ce décalage entre ce qu'on attend de lui et là où il en est réellement. Et donc, c'est se dire que ce gap, ce n'est pas grave et que simplement, il faut le remettre effectivement dans une bonne dynamique.
Donc, ça signifie que vous prenez d'autres profils de professeurs chez Academia?
Oui, parce que aider un enfant du primaire, on va être beaucoup plus sur du multimatière. On travaille avec la société Cogitos, aussi en psychologie, pour donner de la formation à nos enseignants, voilà, psychologues scolaires, pour effectivement donner de la méthodologie sur cette fameuse confiance en soi.
Donc là, on est plus sur des profs que sur des étudiants dans le profil de gens que vous embauchez en ce moment pour distiller ces cours.
Oui, je pense que c'est plus difficile d'enseigner à un élève de primaire parfois qu'un lycéen en mathématiques.
Vous allez me trouver très pragmatique, mais du coup, faites payer un peu plus cher les cours quand c'est ça?
Absolument pas. Non.
Il n'y a
pas eu d'augmentation de prix.
Alors, autre point très important, là on a parlé beaucoup du collège, on a parlé du primaire, mais le lycée aussi, ça change beaucoup. Parce que là, paradoxalement, vous avez moins de demandes parce que grâce à la réforme du bac ou à cause de la réforme du bac, les lycéens se disent « Allez, contrôle continu, je vais m'en sortir, ça va être plus simple, j'ai moins besoin d'avoir ce petit coup de pouce supplémentaire via le soutien scolaire que vous proposez chez Academia. »
Oui, je pense que cette réforme du bac, je ne vais pas juger si c'est bien ou pas bien, elle est là, mais je pense qu'il faut aussi que les familles et que les élèves s'adaptent à cette réforme. C'est-à-dire que, par exemple, dès la seconde, les choix d'orientation, les options sont essentielles. Que le bulletin de première, les notes de première vont compter énormément, puisque c'est la seule année complète, dans Parcoursup. Et effectivement, les élèves de terminale qui ont 11-12 de moyenne, ils vont remplir leur dossier Parcoursup au mois d'avril. Ce qu'on leur demande juste après, c'est de valider par le baccalauréat. Donc c'est complètement un autre rythme où on n'a plus ces élèves de terminale en fin d'année.
Donc il n'y a plus de bachotage. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus des stages préparation du bac pendant les vacances de Pâques?
Voilà,
par exemple, c'est terminé,
cette année, l'année dernière, on a eu moins 70% d'élèves.
Et vous pensez que ce sera à peu près pareil cette année?
Je pense que c'est vraiment une restructuration du marché. Par contre, l'enjeu maintenant, c'est l'orientation et le supérieur.
Et la classe de première.
Donc c'est Parcoursup, c'est les prépas. On voit que de plus en plus, ça soit les Sciences Po, les écoles d'ingénieurs, etc. Il faut se préparer dès la première. On voit que le niveau d'anglais exigé en université, est très important. Donc ça ne se prépare pas 3 mois avant de rentrer dans le supérieur. Donc par contre, il y a une demande beaucoup plus importante sur l'orientation, sur effectivement aider les choix dans Parcoursup.
Donc plus de bachotage, une classe de première beaucoup plus importante hein, pour oui. pouvoir préparer l'orientation, plus de demandes sur les collégiens, les écoles primaires pour rattraper le retard lié aux différents confinements. C'est ce que vous nous dites, Philippe Colléon. Vous êtes le président d'Acadomia et vous restez avec nous.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge et elle tente de rattraper le retard, au moins en matière d'éducation. Aujourd'hui, on parle soutien scolaire avec Philippe Colléon, le président d'Acadomia, le leader sur le secteur, qui nous a dit depuis le début de cette émission que notamment les collégiens et les élèves de primaire ont pris du retard à cause des couvre-feux, à cause du confinement, et qui du coup ont besoin tout simplement là, de se remettre à niveau. On n'est pas sur du soutien sur telle et telle matière, on est sur un soutien global, et on en parle ensemble jusqu'à 14h.
Tiens, Emmanuel, vous êtes bon en orthographe ?
Je crois plutôt, non ?
Oui, ça va, vous ne faites pas de faute dans les SMS
ouais,
que vous m'envoyez.
Non, j'aime bien. Puis j'écris toujours tous les mots, je déteste les abrégés,
ah oui,
tout ça.
C'est insupportable. Figurez-vous qu'entre 2010 et 2015, le niveau d'orthographe a chuté de 6 points. Les Français ne maîtrisaient plus que 45% des règles de grammaire. Un niveau qui baisse petit à petit. Alors face à cela, la France bouge a trouvé, évidemment, comme chaque jour, une solution. Bonjour Mélanie Viennot.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du projet Voltaire. Ça existe depuis 12 ans, le projet Voltaire. Vous et deux autres associés, c'est bien cela ?
Hein ? Alors,
trois autres même.
Alors effectivement, et ça a été fondé par trois personnes au départ. J'étais pas à l'origine,
non, mais
malheureusement.
Vous en faites partie.
Voilà,
vous en
je
faites
porte
partie.
Le projet
vous
malgré
portez,
tout.
Et vous êtes partie de l'idée qu'il fallait créer quelque chose pour améliorer l'apprentissage grâce aux neurosciences, pour créer des réflexes. Quel type de réflexes ?
Alors en fait... De dire que personne ne fait de faute d'orthographe, ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, les Français sont assez fâchés avec leur langue. Donc le projet Voltaire, c'est de la remise à niveau en orthographe, mais aussi en expression. Et en fait, quand on pense quelque chose, quand on veut s'exprimer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, particulièrement à l'écrit en matière d'orthographe, s'arrêter à chaque mot pour se souvenir de comment ça s'accorde, quelle est la règle qui correspond à ce mot, cet accord-là, ça nous arrive
moi,
à tous.
Moi, les vers du troisième groupe, je suis parfois en panique. Hein.
Bah, vous remplacez par...
Je change de verbe.
Moi, je mets mordu à tout.
Bah, moi, des fois, je change de verbe.
Et ne parlons pas de l'accord du participe passé, des verbes pronominaux. Bref, effectivement, l'idée, c'est d'ancrer des réflexes pour que la personne soit à l'aise et puisse suivre le fil de ses idées sans avoir à buter sur chacun
mais
des mots.
Mais du coup, de façon concrète, ça fonctionne comment ? Comment vous arrivez à cela ?
Alors, c'est un outil en ligne. Et comment on arrive à ça ? C'est de l'entraînement. Et c'est ce que nous, on appelle de l'ancrage mémoriel. Donc, ça permet effectivement de s'entraîner beaucoup ou un peu moins. Ça dépend de là où on part en matière d'orthographe ou en matière d'expression. Et puis, d'avoir des temps de pause sur l'application qui permettent en fait d'ancrer durablement. L'objectif, c'est qu'une fois que vous entraînez sur le projet Voltaire, vous puissiez avoir ces réflexes-là qui ne partent pas au bout d'une semaine, mais qui restent bien dans le temps.
Mais quand vous dites durablement, vous préconisez du côté donc, du projet Voltaire 10 à 15 minutes par jour pour chaque module.
Exactement.
Et au bout, il y a une sorte de diplôme, hein, une forme de certification.
Le certificat Voltaire.
Le certificat Voltaire. Mais si on rentre dans le détail, c'est quoi ? On répond à des questions, à des textes à trous, des questions d'orthographe. Donnez-nous quelques exemples.
Alors, pendant l'entraînement, effectivement, vous allez avoir des phrases sur lesquelles vous devez repérer des fautes. Vous allez avoir des textes à trous sur lesquels il faut pouvoir écrire la forme juste, l'orthographe juste. Vous allez avoir des carrés de choix où, en fait, vous avez un mot et puis ben, vous avez 4 possibilités de répondre. Donc, vous avez différentes manières de travailler pour vous permettre de progresser.
À son
pas dans la douleur, surtout.
Mmh. Ça, et ça c'est commence très au CE1, important. C'est ça. Vous commencez à partir du CE1.
Exactement.
Et ça peut aller jusqu'en entreprise, même les adultes.
Alors, ça va en entreprise, ça va même
comment,
pour les passionnés d'orthographe.
On peut y souscrire d'une certaine manière. Parce que là, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs à la maison, en voiture, qui se disent « Oula, pour moi déjà, ce serait pas mal. Et puis alors, pour les petits derniers, ce serait encore mieux. » Comment on peut y souscrire ?
Alors en fait, les étudiants... les lycéens, les collégiens, souvent y ont accès par leur établissement scolaire. En entreprise, ben, c'est soit par le financement du CPF, donc là, en fait, leur formation peut être financée, ou par leur entreprise directement. Et puis après, ben, tout un tas de particuliers viennent effectivement nous acheter un module pour leur enfant.
Ça coûte cher ?
Alors, ça dépend des modules.
Quand c'est payant,
ça coûte entre 35 et 40 euros sur les modules qui sont en ligne sur notre site internet pour un an d'accès sur la solution.
Et puis, vous entrez aussi parfois au sein même de cursus universitaires, de cursus scolaires. Hein. Nous, on le sait.
Charlotte Barrican,
elle a eu pendant sa licence, elle a suivi le projet Voltaire. Elle a fait
très,
énormément
très
de progrès.
Elle est très bonne en orthographe maintenant. C'est la meilleure de nos deux équipes.
C'est ce qu'elle m'a dit, effectivement. Certains établissements d'enseignement supérieur demandent un score minimum au certificat Voltaire pour l'obtention du diplôme.
Mais finalement, le certificat Voltaire, j'ai un peu l'impression que c'est un peu l'équivalent du TOEFL, ou c'est une espèce de diplôme, de tampon qui montre qu'on a un certain niveau.
Tout à fait.
C'est ça ?
C'est exactement ça. Mais pour les Français, dont c'est la langue maternelle.
Mais ce qui est aussi indispensable, parce que c'est un tabou en France, mais les personnes qui écrivent mal ou qui lisent mal à l'âge adulte restent à des niveaux faibles, mais à des niveaux qui ne baissent plus aujourd'hui en France. Est-ce que vous arrivez à toucher ces publics pour les amener à la lecture dans le cadre de l'entreprise, où généralement on ne le dit pas parce qu'on a développé tellement d'artifices pour faire croire que c'est compliqué même de savoir qu'ils ne savent pas lire ou écrire.
Alors, c'est très stigmatisant. Maintenant, quand même, les fautes ont tendance à se voir. Nous, notre gros enjeu, c'est de décomplexer les gens avec l'orthographe. Moi, à l'origine, je suis une fâchée avec l'orthographe et donc je suis la preuve vivante qu'on peut s'améliorer à tout âge.
Et mais avant d'être embauchée, vous avez passé le test ?
Bien sûr. Mais aujourd'hui, on met en place des jeux d'évasion où on joue avec l'orthographe et ça permet vraiment en fait, d'avoir un abord ludique.
Philippe Colléon, vous êtes notre patron du jour, président d'Acadomia. Je vous vois vous écouter attentivement, hein, Mélanie Viennot, pour le projet Voltaire. Vous travaillez avec eux ?
On se connaît, ou je connaissais vos prédécesseurs. C'est un très très beau projet. Enfin, c'est plus un projet, c'est une réalité. Et c'est vrai que je vous écoutais attentivement parce que je crois qu'effectivement, il y a un complexe chez l'adulte, les gens qui font des fautes d'orthographe. C'est vrai que en anglais, il y a beaucoup de certifications. Alors, vous parlez de TOEIC, TOEFL, Cambridge, et qu'il n'y a pas cette rigueur, cette exigence sur le français. Et le troisième point que je retiens, et qui est très important, c'est de trouver du plaisir dans l'apprentissage. Et que le français petit, on part avec des dictées, on a moins 20, moins 40.
Hein. Oh, les autodictées quand on était petit, c'est, là,
voilà, c'est le cauchemar, on a tous des cauchemars de ces dictées. Et donc, je pense qu'effectivement, quand vous parliez de 15 minutes de plaisir, c'est une clé pour retrouver...
Mais cette baisse du niveau, oui. Vous la voyez, vous aussi en orthographe, Philippe Colléon, par rapport au monde. Et on connaît les raisons, hein, c'est qu'on écrit moins, on lit moins,
bien sûr.
On utilise des téléphones portables qui parfois écrivent tout seuls, donc on est moins dans le concret de l'écriture.
Non mais tous les enseignants le constatent, cette baisse. Mais nous, ce qui est intéressant, deux secondes sur Acadomia, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de demandes de cours d'anglais que de français. Ce qui est le cas depuis 2 ans, mais ce qui n'était absolument pas le cas avant. Donc il y a un... aujourd'hui, presque plus d'attention à apprendre une deuxième langue qu'à apprendre bien maîtriser sa première langue.
Mélanie Viennot, vous êtes la présidente du projet Voltaire. C'est facile de travailler avec des salariés au sein de l'entreprise ? Ce sont les mêmes modules ? Comment ça marche ? C'est quand même vous abordez ça différemment, j'imagine.
Alors, on aborde ça un peu différemment. Après, les règles sont les mêmes.
L'orthographe est
les lacunes et les points de difficulté, souvent aussi. Mais effectivement, vous le disiez tout à l'heure, le plus gros enjeu, c'est vraiment d'amener les gens sur un outil de ce type-là, sur notre outil, de faire en sorte qu'ils jouent avec le projet Voltaire, et que ce soit pas que ce soit décomplexant, vraiment.
Le fait qu'on ait eu des confinements, qu'on ait eu des couvre-feux, qu'on ait eu envie de se former, il y a eu une forte hausse des formations pendant cette période, vous en avez profité ?
Alors, oui. Après, nous, on a eu beaucoup d'élèves qui se sont entraînés pendant le projet Voltaire, parce qu'en fait, on a offert le projet Voltaire en orthographe à tous les établissements qui nous en faisaient la demande pendant le premier confinement. Donc, on a eu 20 000 établissements qui sont venus vers nous et on a à peu près 450 000 élèves qui se sont entraînés sur cette période sur le projet Voltaire.
Le projet Voltaire, hein, si vous avez envie de progresser en orthographe, c'est le moment ou jamais. Merci à vous, Mélanie Viennot, vous êtes la présidente du projet Voltaire.
Merci. Et la dictée n'est pas finie pour vous, Philippe Colléon. Vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
C'est comme chaque jour, le seul endroit où on parle de choses positives. La France bouge sur Europe 1 en direct de 13h à 14h. On est ravis avec Elisabeth Assayag de vous accueillir. Aujourd'hui, on parle notamment éducation, on parle soutien scolaire avec le leader en France. C'est une autre des habitudes de La France bouge, avoir toujours les numéros 1, en l'occurrence Philippe Colléon, le président d'Acadomia. Alors on a parlé depuis le début de cette émission des évolutions de cette rentrée, une entrée très particulière hein, de ce qu'on a compris grâce à vous. Il faut rattraper les lacunes du côté des collégiens et du primaire et puis du côté du lycée, des demandes qui sont en train d'évoluer. On se prépare maintenant plutôt pour l'après puisqu'on a moins de pression sur le bac. Finalement, on a assez peu parlé de cours en visio et ce genre de choses, qui a pourtant été notre habitude ces deux dernières années. Qu'en est-il ? Qu'est-ce que vous avez appris d'une certaine manière de cette crise qui vous a permis peut-être, vous aussi, de progresser plus vite que prévu sur le numérique ?
Tout à fait. C'est-à-dire que ces deux années nous ont obligés à complètement repenser l'éducation et surtout de voir que le distanciel, le bon distanciel, fonctionne très très bien. À condition d'avoir les bons outils, la bonne plateforme, la bonne pédagogie et les enseignants formés à cette pédagogie. Et donc du coup, quelque part, cette pédagogie-là ou ces outils-là, l'éducation nationale, les écoles n'en disposaient pas, et donc il y a un genre de ras-le-bol du distanciel. Mais je crois que parfois il faut du présentiel, avoir le professeur à côté ou est dans un centre, mais parfois, dans certaines situations, le distanciel est de très très bonne qualité, et attention de ne pas prendre de retard, j'en veux dire, en France, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, où véritablement, on appelle ça le physital, c'est un mélange de physique et de digital.
Quand vous dites ne pas prendre de retard, je ne comprends pas, c'est-à-dire pour l'éducation nationale ou pour des acteurs comme vous ?
Pour l'éducation en général, et on voit des acteurs privés se développer en France, à l'international, et ça serait bien que la France gérer ne raille pas ces deux années d'un crayon comme si rien passé.
Mais pourquoi vous avez l'impression que c'est le cas ? La France est en train de mettre de côté tout ce qu'on a pu assimiler pendant ces deux dernières années en faisant des cours en visio, le Zoom, moitié distanciel, moitié présentiel. Quand on vous entend parler, Philippe Colléon, on a l'impression que ça y est, tout est balayé.
Quand on écoute les parents, voir les solutions qui ont été proposées bien souvent par les écoles, et ce n'est pas la faute des enseignants, ils n'étaient pas équipés, ils n'étaient pas formés, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de progrès à faire.
Donc
nous, on a travaillé, ça fait 5 ans qu'on travaille avec une université américaine qui est que en distanciel, et justement on voit qu'il y a des pédagogies complètement innovantes, complètement différenciées, et qui ont de très très bons résultats. On a ouvert l'année dernière une école en distanciel avec la Fédération Française de Tennis, où on a d'excellents résultats. Donc je pense qu'il ne faut pas balayer, d'avoir dire le distanciel ça ne marche pas. Je pense que parfois il faut du physique, parfois le distanciel
mais permet... Mais le distanciel marche quand on fabrique son cours pour du distanciel. C'est un peu comme la radio filmée finalement. Ça ne sert pas
exactement
à grand chose si on vient juste mettre une caméra. L'idée c'est de faire en sorte que le produit apporte quelque chose.
Exactement. Soit il faut une pédagogie adaptée et que l'outil réponde à ça, mais surtout ça rapproche les gens. Si vous êtes n'importe où en France, vous voulez avoir le meilleur prof pour préparer Sciences Po, vous n'avez plus besoin d'aller à Paris faire un stage, louer une chambre pour faire un stage. Donc quelque part, le distanciel rapproche énormément les gens et surtout propose encore une fois une pédagogie que ne permet pas souvent le présentiel. Vous pouvez enregistrer les cours, vous pouvez vous repasser des cours, ce que vous ne pouvez pas demander 5 fois à votre enseignant de répéter la même chose.
Ça peut permettre de consolider des connaissances, hein, c'est ça que vous nous dites Philippe Colléon, ce mix de distanciel et de présentiel. C'est consolider des connaissances, aller dans un point précis qu'on n'aurait pas compris, c'est aller plus loin dans les apprentissages.
D'aller beaucoup plus loin et avoir quelque chose de très personnalisé, individualisé. Voilà.
Alors en ce moment, Philippe Colléon, il y a une grande campagne pour lutter contre le cyberharcèlement. Elle est soutenue notamment par Brigitte Macron. Elle a été lancée sur Instagram. Est-ce que vous, du côté de chez Acadomia, vous agissez là-dessus, puisque vous avez des professeurs qui sont en contact permanent avec des écoliers, avec des collégiens, des lycéens. Est-ce que vous avez mis au point, je ne sais pas, une formation pour détecter les signaux des enfants, des élèves harcelés ?
Alors, on n'a pas une méthode miracle là-dessus. Par contre, ce que l'on voit, c'est de plus en plus de gens de phobie scolaire, c'est-à-dire d'enfants qui ne veulent plus retourner à l'école parce que, justement, harcèlement ou sur les réseaux ou au sein de l'établissement.
Vous les récupérez une fois qu'ils sont déjà harcelés.
Si je puis dire, oui, on les récupère. On va essayer de les aider. Après, c'est des signaux souvent très, très faibles. On voit par hashtag 2010,
Heureusement pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a notamment sur les réseaux sociaux TikTok, principalement utilisé par les jeunes, il y a un hashtag pour ceux qui sont nés en 2010 et qui là rentrent en 6e, grosso modo, venez les harceler directement sur Internet, ça a créé, c'est bien normal, une polémique gigantesque. Personne ne sait vraiment comment c'est né et ça a eu en revanche des conséquences dramatiques sur un paquet de jeunes adolescents.
La première chose à faire, et vous le faites, c'est d'en parler. Tout ce qui est harcèlement.
Les réseaux se mobilisent. Hein, sur Instagram, c'est hashtag le poids des mots. Il y a une campagne qui est en train de prendre place, de s'installer pour que tout le monde, pour que l'information arrive à chacun et aux enfants, aux élèves, aux collégiens, aux lycéens. Donc nous, on en parle. Et vous, du côté d'Academia, vous avez des remontées du côté des profs?
On en parle aussi beaucoup avec les parents pour dire comment en parler avec l'enfant, comment réagir, comment créer le dialogue autour de tous ces phénomènes de harcèlement, parce que ça concerne bien sûr l'enfant en premier lieu, mais aussi les parents, et c'est les premiers à détecter parfois les changements de comportement, le trouble du sommeil, etc.
Alors chaque jour dans La France Bouge, Philippe Colléon découvre une marque ou un endroit qui font la fierté de notre pays parce qu'ils traversent des générations et ils sont toujours là en France. Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans le quartier Saint-Michel à Paris, dans un lycée fondé au XIIIe siècle.
Oui, l'établissement avait pour vocation de nourrir 40 étudiants pauvres, principalement normands. Alors le temps passe, l'établissement ferme, puis est racheté par Napoléon et devient un lycée classique. Et vous allez l'entendre, ce lycée a vu passer un paquet de sacrées figures françaises. Et c'est grâce à Charlotte Barrican qu'on va pousser les portes de ce lycée Saint-Louis à Paris.
Europe 1, la France bouge. La saga.
Le portail est ouvert, bienvenue au lycée Saint-Louis, au 44 boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement de Paris. Ce bâtiment de 740 ans fait la taille d'un pâté de maison, il a été rénové à plusieurs reprises, mais la structure, elle, n'a pas changé. De l'entrée, avec le carrelage de l'époque, à la cour avec des allées de buissons et des statues, jusqu'aux étages, au plafond très haut et aux moulures, c'est un ecclésiastique, Raoul Darcourt, qui l'a construit dans le but d'aider des étudiants normands très pauvres. À l'époque, l'établissement s'appelait lycée Darcourt, mais il a parfois servi à autre chose. Mireille Bassot, proviseur du lycée Saint-Louis, depuis son bureau.
À une période, les locaux ont été abandonnés par l'éducation et ils ont servi de prison, de dépôt d'armes, enfin de toutes sortes de choses. Et puis, en 1812, Napoléon a racheté le bâtiment pour le rendre à sa vocation initiale, c'est-à-dire à l'enseignement. Il a fallu quelques années quand même avant que le lycée ne rouvre. Et là, il avait changé de nom. C'était devenu le lycée Saint-Louis.
En 1820, le lycée Saint-Louis devient un lycée public et laïque où toutes les matières y sont enseignées. Mais dès 1850, des élèves excellent en mathématiques, en sciences et en physique. Si bien que quelques années plus tard, on crée les premières classes préparatoires aux grandes écoles.
On a créé des classes préparatoires spécialisées pour rentrer à l'école polytechnique, à l'école centrale, à l'école normale supérieure et à Saint-Cyr. Et donc, c'est vraiment à cette période-là que c'est devenu un établissement très orienté vers le scientifique. Petit à petit, le nombre de classes littéraires a beaucoup diminué, jusqu'à être quasiment nul. Et puis, dans les années 1960, le secondaire a complètement disparu. Et depuis, le lycée Saint-Louis n'accueille que des classes préparatoires aux grandes écoles.
La réputation de Saint-Louis se forge. Ils y ont formé les plus grands, Montesquieu, Diderot, Pasteur ou encore Antoine de Saint-Exupéry. Et au tableau d'honneur, 3 prix Nobel de physique. Pour leur rendre hommage, au centre de la cour, il y a 3 monuments aux morts. L'héritage historique des lieux est important pour les élèves et les enseignants. C'est une vraie chance de pouvoir étudier entre ces murs et d'y vivre, puisque dans ce lycée, on trouve aussi un internat. Sur 1400 élèves, 350 y sont internes et tout est organisé au mieux pour qu'ils puissent étudier dans les meilleures conditions.
Tout est mis en œuvre pour que les élèves réussissent, c'est-à-dire que l'établissement leur est ouvert, sauf les salles spécialisées évidemment, c'est-à-dire les laboratoires. Tout est ouvert tout le temps. Les élèves peuvent s'installer où ils veulent pour travailler, et y compris dans la cour où on met à leur disposition des tables de jardin pour travailler. Et quand vous rentrez dans le lycée Saint-Louis, il n'y a pas de bruit.
L'excellence offerte par le lycée Saint-Louis attire. Cette année, Parcoursup a recensé 3000 dossiers pour seulement 650 places. Seuls les meilleurs ont été acceptés et parmi eux, peut-être les futurs médailles Fields et prix Nobel français.
Eh ben, c'est tout ce qu'on souhaite, effectivement, de gagner tout ça, et notamment des prix Nobel. Et en économie, ce serait pas mal qu'on continue de gagner des prix Nobel, parce qu'on est malgré tout pas si mauvais, ça nous arrive de temps en temps d'en avoir. Bravo en tout cas à Charlotte Barrican de nous avoir emmenés dans ce lycée Saint-Louis, qui date donc du 13e siècle.
Philippe Colléon, vous êtes le président d'Academia, vous êtes notre grand patron du jour. On va vous demander maintenant de, bah justement, tiens, de coacher et d'accompagner une entrepreneure qui se lance. Vous êtes prêts ?
Avec plaisir.
Allez, c'est parti.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Une France bouge consacrée aujourd'hui au soutien scolaire avec Philippe Colléon, le président d'Academia. C'est l'heure maintenant des trophées Europe 1, la France bouge. Chaque jour, elle où ils tentent de vous convaincre. Pour cela, ils défendent leur dossier devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Et puis, bien évidemment, il n'y aurait rien dans cette émission sans Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie en charge de l'entrepreneuriat là-bas, qui va, j'en suis sûr, encore nous apporter à chaque fois avec beaucoup d'intelligence et de gentillesse ses merveilleux conseils.
Et une fois de plus, un projet d'entreprise dans la France bouge, lancé là aujourd'hui, il y a à peine 3 petits mois. Bonjour Anne-Laure Monnier.
Bonjour, enchantée.
Vous avez 38 ans, vous êtes niçoise et vous êtes la fondatrice de Nanaba. Alors on va rester dans l'univers de l'éducation, puisque votre projet, c'est une application de soutien scolaire qui, écoutez bien, elle verrouille les applications préférées de l'enfant en échange des révisions. Alors comment ça marche? Racontez-nous, c'est parti, vous avez une minute pour le pitch.
Bonjour, alors tout d'abord j'attaque par un chiffre, il faut savoir qu'en France 72% des foyers ont comme première source de tension l'utilisation des téléphones et de tablettes, donc ça parle à tous les parents. Donc Nanaba c'est une application à destination des enfants donc 6-15 ans, CP à la 3e, sur iOS et Android, qui a pour objectif de bloquer les applications présentes sur les tablettes et téléphones en échange de révisions scolaires. Notre objectif il n'est pas que là, il est aussi que l'enfant il apprenne facilement, donc on est basé sur une technique d'apprentissage qui est l'apprentissage mnémonique qui permet à l'enfant d'apprendre rapidement les données d'apprentissage essentielles à la poursuite de son cursus scolaire. Donc les quiz sont des quiz qui sont faits par des professeurs de l'éducation nationale de façon à pouvoir coller aux vraies difficultés d'apprentissage des enfants.
Et ben voilà, super, moi j'aime bien votre expression, bloquer les applications en échange de faire des quiz. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ados qui se disent « chouette, voilà la bonne idée pour passer mes soirées à la maison mais... ».
C'est vrai.
Alors attendez, il faut que je donne le prix quand même, parce que pour que je ne dise pas
d'annerie,
il y a un abonnement qui est possible pour les quiz. C'est 3 euros par mois pour les quiz pour l'école primaire, 6 euros par mois pour le collège. Puis après, on propose un pack family pour 4 et là, le prix est dégressif, m'a-t-on dit.
Alors c'est 9 euros pour 4 comptes.
Voilà.
Et puis vous comptez aller au CES de Las Vegas ?
Oui, alors on a eu la chance d'être sélectionné au CES de Las Vegas, donc qui a lieu en janvier de l'année prochaine.
Avec
donc
pour une entreprise qui existe à peine depuis juin.
C'est ça.
Bah, c'est fort.
C'est une grande victoire. On est aussi présent au Web Summit Lisbonne. Donc on a des belles victoires là, qui s'enregistrent sur Nanaba, donc on est ravis.
Et puis avec Elisabeth, on a aussi été impressionnés par un chiffre, parce que d'habitude, ceux qui viennent là, ils sont tout seuls, ils essayent d'avoir un stagiaire. Alors j'espère que je ne me trompe pas, mais on m'a dit que vous étiez déjà 15 et que vous vouliez être 40 d'ici à la fin de l'année.
Exactement, ouais. On souhaite une ascension très rapide. Pourquoi ? Parce que notre projet est un projet novateur et qu'on est conscient qu'on peut être rapidement attiré en fait, par des mastodontes de l'éducation et que notre objectif, c'est de prendre notre place assez rapidement sur ce secteur-là.
Et vous créez des boîtes, c'est votre passion ? Vous êtes chef d'entreprise depuis 25 ans, c'est ça ?
Alors,
depuis
moi,
l'âge
non,
de vos 25
pas 25 ans.
Ans. Depuis
non.
L'âge de vos 25 ans.
Non,
vous
c'est
êtes
mon associé,
encore.
25 ans. Je fais si vieille que ça, je vous remercie. Non, mon associé, ça fait 25 ans. Moi, ça fait 13 ans maintenant que je suis chef d'entreprise. Et donc, c'est vrai que bon, nous, on est associés déjà depuis 11 ans avec mon associé et on a plusieurs sociétés à notre actif. Et donc, notre passion, en effet, c'est de développer des entreprises. Mais avant tout, c'est un projet de maman qui a subi ce confinement et qui souhaitait trouver une solution avec son enfant pour éviter que ça devienne un gros geek devant YouTube et l'aider surtout à apprendre de façon plus facile.
Bonjour Nathalie Carré.
Bonjour Elisabeth, bonjour Anne-Laure, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors, quelles sont les forces et les faiblesses ? C'est une bonne idée, hein, Nanaba ?
Ah ben c'est une bonne idée, puis vous ouvrez en fait la voie à une autre façon d'apprendre en fait, et totalement en phase avec les habitudes de nos enfants, parce qu'effectivement on est bien content qu'ils aient un téléphone quand on veut les joindre, mais de temps en temps on aimerait bien qu'ils les lâchent. Alors quelques points améliorés en fait, honnêtement, le nombre d'élèves ou de collégiens qui vont surfer sur internet pour trouver une solution pour réviser ou apprendre doit être assez faible, hein. Donc votre site internet, construisez-le clairement à destination des parents. C'est nous qui nous posons ce genre de questions, hein, soyons clairs. Donc, quelques propositions. Déjà, c'est du détail, mais pas sûr que le tutoiement des parents soit forcément apprécié par tous. Ajouter des captures d'écran pour voir à quoi ressemble l'application et les quiz. On les a, hein, quand on télécharge l'application, on a tout ça. Mais sauf que l'appli, il faut la télécharger, il faut écrire son nom, son prénom, machin. Mm-hmm. Donc, mettez-nous tout ça sur Internet. Mettez en avant que vous offrez un mois d'essai gratuit. Ajouter un comment ça marche. Alors, on a les infos quand on télécharge, mais quelles applications peut-on bloquer ? Alors, a priori, c'est uniquement celles que nous avons sur notre propre téléphone. Il faut expliquer pourquoi. Est-ce qu'on ne peut pas paramétrer l'appli depuis le téléphone de notre enfant ? Parce que moi, je n'ai pas Insta ni Snapchat machin hein, sur mon téléphone. Donc, je ne peux pas bloquer mon fils, du coup. Ne peut-on pas... Est-ce que les enfants doivent faire un quiz à chaque connexion et tous les jours, même le week-end ? J'ai demandé à mon fiston qui m'a dit à chaque fois, maman.
La grande question. Fils,
oui, du coup, il a servi de cobaye. Là, voilà. Est-ce que l'application s'ouvre même s'ils ont répondu au hasard et que tout est faux ? Et puis, il manque du contenu sur pourquoi ça marche. Ça peut paraître un peu système sanction, en fait. Et on peut se dire que les gamins vont prendre ça à la légère, répondre au hasard, juste pour accéder à l'appli. Donc, peut-être qu'un psy pourrait expliquer comment ce système agit réellement sur l'apprentissage et sur le cerveau des enfants pour les motiver. Puis, une suggestion. Votre cible sera sûrement les parents qui ont déjà installé ou souhaitent installer un contrôle parental. Donc, ça pourrait faire d'une pierre deux coups. Je bloque mon enfant à 2 heures d'utilisation, par exemple. Mais s'il a, 80% de bonnes réponses à un quiz de Nanaba, eh ben, il a 10 minutes de plus d'utilisation de son appli, par exemple, avec une limite, bien sûr. Donc, plus d'infos pour expliquer, rassurer et donner envie d'essayer et télécharger votre appli.
Qu'est-ce que vous répondez ? Que répondez-vous à Nord ? On est sans voix parce
on n'arrive même plus à noter toutes les idées. Après.
Vous avez pris des notes un peu ?
Alors, il y a beaucoup d'idées, en effet, que nos équipes sont déjà en train de mettre en place. Il faut savoir, comme on le disait, on est une société qui est très jeune, qui avance aussi très rapidement. Donc, tous les jours, il y a des changements. Le site Internet est justement en train d'être entièrement refait. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer dans ce sens-là. En revanche, je prends bonne note de beaucoup d'éléments, notamment sur le fait de peut-être donner plus d'explications, parce que ce qui, pour nous, peut être logique... ne l'est pas forcément pour le parent. Donc, c'est important peut-être qu'on soit plus clair dans les explications sur le fonctionnement de la psy.
Et puis, c'est pas mal l'idée de la psy. Alors, quel effet ça a sur l'enfant ? C'est pas mal. Hein.
C'est pour ça que pour répondre à ce que vous disiez, c'est que en fait, l'intérêt, c'est que même si l'enfant il répond mal à la question, c'est pour ça qu'on travaille sur l'apprentissage mnémonique, c'est que cette mauvaise réponse va revenir de façon régulière sur l'application, de façon à ce qu'elle rentre dans le cerveau malgré soi.
C'est vrai qu'elle mettait un point en avant, Nathalie, aussi, sur le fait on s'en fout, on répond au hasard.
C'est ça. Alors, pour en parler, justement, parce que mon fils, à la base, c'est ce qu'il a fait, il m'a dit oui, mais c'est bon. Mais même s'il répond mal, à force de voir la bonne réponse, ça rentre quand même dans son cerveau. Et quand il arrive dans sa il le sait. Et donc l'idée, alors nous, on est clairement conscient qu'on ne va pas non plus révolutionner l'éducation française. On n'est pas non plus Academia. Et on ne se permettrait pas de le dire. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'aller aider les parents qui n'ont pas de solution aujourd'hui concrète d'apprentissage pour leurs enfants et les enfants.
Et bien justement, que dit le président d'Academia, Philippe Colléon ?
Non mais déjà, bravo. Je pense que tout ce qui est éducation, innovation, nouvelles idées est bienvenu. Enfin, ça manque énormément. C'est un secteur qui doit se transformer totalement. Après, pour venir sur notre projet, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme une marque de lessive. Le premier cadeau, ça va être le contenu pédagogique, ça va être ça. Le fait de bloquer, c'est le petit cadeau qui est à côté.
Exactement.
C'est pas, je sais pas si le moteur numéro un va être le fait de bloquer les autres applications. Donc, c'est, effectivement, plus vous pourrez développer de contenu intelligent, mémoriel, etc. Je trouve que c'est une très bonne idée, mais qui, je pense, nécessite énormément de ressources de votre côté.
De
contenu
pédagogique.
Pédagogique, exactement.
Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ouais. Nanaba, c'est pour que ça puisse être traduit dans toutes les langues ou ça veut dire un truc en particulier ?
Non. Alors Nanaba, c'est tout simplement partie du personnage de l'application, puisque l'application va se tourner de plus en plus vers le gaming de façon à séduire l'enfant. Ce personnage, c'est une banane. Et donc au début, l'application devait s'appeler Banana. Et quand je vous livre les petits secrets, hein, quand on a commencé à déposer le nom de la marque, à voir un petit peu les noms de domaines, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un site de rencontre qui existait qui s'appelait Banana, donc qui ne collait pas forcément avec l'objectif de notre entreprise.
C'est un peu gênant,
et donc, on en a parlé à nos enfants qui nous ont dit « Ah, mais attends, tu veux parler aux enfants ? Mets-le en verlan, appelle-le Nanaba. » Et donc, Nanaba est née.
Voilà.
Ah bah voilà, bah c'est super, simplement. Une fois de plus. En tout cas, merci beaucoup à vous, Anne-Laure Meunier, la fondatrice de Nadaba, d'être venue nous présenter cette solution vraiment très innovante. Merci à Nathalie Carré, qu'on retrouvera dès demain. Si vous aussi, vous voulez venir présenter votre entreprise, eh bien, c'est très simple. Il y a une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir.
Allez, suite et fin de votre émission, Philippe Colléon, vous êtes le président d'Acadomia. Vous restez avec nous quelques minutes?
Avec plaisir.
Europe 1, 13h, 14h.
On recrute plus de 400 personnes pour couvrir l'ensemble de notre activité classique.
Aujourd'hui, on recherche énormément de talents.
On recrute 1000 personnes, voire 1500 personnes sur toutes nos agences, sur toute la France, sur tous les métiers.
La totalité de nos magasins recrute.
C'est des centaines d'offres d'emploi qui sont à pourvoir.
On recrute sur tous les métiers de base de la boulangerie, pâtisserie, tous les métiers de vente.
On n'arrive pas à trouver des vendeuses, on va être obligé de fermer des boutiques.
Soyez bienvenus et venez à la rencontre d'une belle boîte dans laquelle on se sent bien.
La France bouge.
Elisabeth Assay. Yag, Emmanuel Duteil.
Elle bouge et elle recrute, toujours avec Philippe Colléon, le président d'Acadomia.
Et sur Europe, on écoute le monde changer, on vous aide à trouver un emploi et on accompagne aussi les entrepreneurs à trouver les bons, les bonnes candidates. Bonjour Julien Joubert.
Bonjour.
Vous êtes le président de Pluralé. Pluralé, c'est un groupe français spécialisé dans la gestion du patrimoine, dans les métiers de l'immobilier. Ça existe depuis 12 ans, 450 salariés environ. Et si vous êtes là dans demain, un emploi, la France bouge, c'est parce que vous avez 600 postes à pourvoir, des CDI, des indépendants, c'est-à-dire quel type de profil ?
Absolument. Alors, c'est Plural groupe et nous recherchons aujourd'hui, oui, alors 600 postes, voire davantage. Je vais mettre un nombre. Donc, on a donné 600. Ça concerne tous les futurs talents en tant que négociatrice, négociateur immobilier pour notre marque Lifestone. On trouve aussi des directrices, directeurs pour de nombreuses régions, des courtières et des courtiers pour notre filiale qui s'appelle Privilège Courtage. Là aussi, nous recherchons des directrices et des directeurs d'agence et des consultantes, en gestion de patrimoine pour notre marque Quintessence.
Alors, on l'entend, il y a beaucoup de jobs à pourvoir, mais donc des CDI et des indépendants, parce que dans ces corps de métier, vous fonctionnez beaucoup avec des indépendants, mais là, pour les indépendants, vous cherchez quel genre de profil ? Et comment ça se vend-il dans ces 600 postes à pourvoir ?
Oh, alors ça, on a vraiment les deux options, hein, que ce soit en CDI ou en indépendant. Disons que ce sont des métiers, que ce soit la négociation immobilière, le courtage en crédit ou la gestion de patrimoine, où c'est pas forcément des horaires de bureau. On est amené à se déplacer chez les particuliers. Il y a des amplitudes horaires qui sont assez larges. Donc c'est des métiers qui sont préférablement destiné à des agents commerciaux mandataires, mais encore une fois, il y a des postes de salariés à pourvoir également.
Et avec ou sans expérience, et c'est à pourvoir sur toute la France, hein.
Avec ou sans expérience, à pourvoir sur toute la France. Nous avons une académie, un campus de formation avec une formation continue, donc on sera à même de faire grandir tous les profils qui vont nous rejoindre.
Et pour postuler, c'est recrutement@plural.fr, hein, PLURADELE.fr. Philippe Colléon, avant de nous quitter, vous recrutez chez Acadomia ?
Oui, on recrute en ce moment 40 conseillers pédagogiques dans nos centres, et chaque année à peu près 5000 enseignants pour travailler avec nous. Donc on est effectivement une société aussi qui...
Une société qui recrute, qui crée de l'emploi. C'est ça, la France bouge. Merci à vous, Philippe Colléon. Je rappelle que vous êtes le président d'Acadomia. Merci d'être venu aujourd'hui dans la France bouge. Emmanuel, nous, on se retrouve demain. On va parler environnement,
puisqu'on sera avec De Richebourg Environnement. Et vous allez voir, je vous mets quand même un petit peu la puce à l'oreille. Jamais vos déchets n'ont rapporté autant d'argent.
Tout un programme. On se retrouve demain dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.